VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 1er décembre 2016. Anastasie Tudiech et Gabi Chérubin d'Orsil avec vous. Au sommaire ce soir, les Gambiens se rendent aux urnes. Yahya Jammeh fait face à deux autres candidats, dont l'un soutenu par une large coalition de l'opposition.
Nouveau combat dans le nord du Mali entre les ex-rebelles de la CMA et les forces pro-gouvernementales Gatia.
1er décembre aujourd'hui est la journée mondiale de lutte contre le sida.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump entame sa première tournée depuis l'élection du 8 novembre. Première escale, l'Indiana.
Et bien sûr, les sports et l'économie, juste après le journal. Affrontement entre le Gatia et la CMA. Le bilan est de 2 morts côté CMA et 2 blessés. Le Gatia affirme avoir fait 15 prisonniers et récupéré 4 véhicules. Les combats se sont déroulés à Marcy, dans la localité d'Intilit. Malgré ces incidents, le gouvernement continue de mener des actions dans le cadre de l'application de l'accord de paix pour répondre aux préoccupations des populations de ces localités. Plus de détails avec Kassim Traoré.
La guerre CMA-Gatia est loin de connaître son épilogue. Actuellement, les frères ennemis s'affrontent dans la région de Gao. Ce jeudi matin vers 9h, un convoi de la CMA était face au Gatia, dans la localité d'Intelit, région de Gao, plus précisément aux alentours du petit village de Marcy. Les combats ont duré plus d'une heure. Le bilan est de 2 morts, tous de la CMA, dont le sergent déserteur de l'armée malienne, Marouchat, et un certain Itou. Les Gatia ont fait prisonnier 15 combattants de la CMA et récupéré 4 véhicules. Côté Gatia, il y a eu 2 blessés graves. Avant cette attaque, dans la même région, entre 11h et midi hier, un véhicule du Gatia contenant 6 personnes, dont une femme, a sauté sur une mine. 5 personnes ont perdu la vie dans cette attaque, y compris l'unique dame. Il y a eu un seul survivant qui était encore sous le choc de l'attaque. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les Gambiens se sont rendus aux urnes pour élire leur président parmi 3 candidats, dont le président sortant, Yahya Jammeh. Des précisions avec Eddy Issango.
Le président Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, est candidat à sa propre succession. En face, il y a Adama Barrow, patron d'agence immobilière qui est soutenu par une coalition des partis d'opposition, et Mama Kandé, un transfuge du parti au pouvoir qui a fondé une nouvelle formation politique. Le scrutin est à 1 tour et chaque candidat s'est dit certain de remporter la victoire. Les réseaux Internet est coupé depuis hier, les appels internationaux et SMS vers la Guinée ne passent plus. Mais les communications à l'intérieur du pays fonctionnent. Quelques 890 électeurs sur près de 2 millions d'habitants étaient appelés aux urnes dans un système unique au monde. Le vote s'est fait par une bille à déposer dans un des 3 bidons des couleurs différentes. Les verts pour Jammeh, les gris pour Barrow et les violets pour Kandé. À Banjul, la capitale, il y a eu des longues files d'attente devant certains bureaux de vote. Les premiers résultats sont attendus dans la nuit de jeudi à vendredi. Les gouvernements ont interdit toute manifestation après les scrutins qui s'est déroulé sous haute présence policière.
Le prix Nobel africain de littérature 1986, le Nigérian Wole Soyinka, a annoncé aujourd'hui s'être débarrassé de son permis de résidence permanente aux États-Unis en réaction à la récente élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Peu avant le scrutin, Wole Soyinka avait menacé de jeter sa carte verte en cas de victoire du milliardaire en raison de ses positions hostiles à l'immigration. Quand j'ai fini mes cours, j'ai jeté la carte et je me suis réinstallé de façon permanente au Nigeria. Ça me faisait horreur de penser à ce qui allait se passer avec Trump à la Maison-Blanche, a-t-il précisé. Wole Soyinka, auteur d'une 60aine de romans, pièces de théâtre et poèmes, ajoute qu'il ne veut toutefois pas décourager les Nigérians ou quiconque à postuler pour obtenir le statut de résident permanent aux États-Unis.
Une figure africaine majeure de l'art contemporain s'en est allée. Le Sénégalais Ousmane Sow est décédé aujourd'hui à l'âge de 81 ans à Dakar. Ses sculptures monumentales ont fait le tour du monde. En 2013, il est le premier Africain à rejoindre l'Académie des Beaux-Arts en France en tant que membre associé étranger. Ce kinésithérapeute de formation, de son propre aveu, n'a jamais rêvé d'être un artiste. Sa dernière œuvre est une tête monumentale de 2 mètres de diamètre. commande de la République du Sénégal. Nous reviendrons sur le sujet dans notre partie magazine.
On reste au Sénégal côté politique. Maintenant, le procès du député dissident de la majorité présidentielle, Barthélémy Dias, a été ajourné au 25 janvier. Monsieur Dias est poursuivi pour homicide volontaire lors de violences politiques qui ont eu lieu en 2011 entre des opposants et partisans, entre des opposants et partisans présumés du président de l'époque, Abdoulaye Wad. Ces violences survenues lors d'une attaque de la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz, dirigée par M. Dias, à l'époque un virulent opposant au régime de M. Wad, avaient fait un mort par balle et des blessés selon la police. M. Dias avait été filmé faisant usage d'une arme à feu le jour des violences. Il avait alors invoqué la légitime défense.
Deux gendarmes ivoiriens ont été tués hier dans l'est de la Côte d'Ivoire, moins d'un mois après la mort de quatre personnes, dont deux gendarmes, au cours d'affrontements dans cette région, a-t-on appris aujourd'hui de sources sécuritaires. Cette attaque survient après le lynchage le 16 novembre de deux gendarmes par une population en colère après la mort d'un civil, tué par un militaire également lynché à Niamey, à 70 km de Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Des élections législatives doivent avoir lieu le 18 décembre en Côte d'Ivoire.
Les deux principaux candidats en lice pour l'élection présidentielle au Ghana du 17 décembre sont des ennemis politiques de longue date et le scrutin à un tour s'annonce particulièrement serré.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans l'actualité, aux États-Unis, Donald Trump, futur locataire de la Maison-Blanche, débute aujourd'hui une tournée de la victoire dans les États industriels qui lui ont permis de gagner. Il se rendra d'abord dans l'État de l'Indiana pour visiter une usine qui fabrique des climatiseurs. Eric Manirakiza.
Donald Trump a fait de cette usine un symbole de la politique anti-délocalisation qu'il entend mener. Il affirme avoir conclu un accord pour sauver 1000 emplois que l'usine voulait déplacer au Mexique. Un communiqué de l'entreprise précise plutôt que sa décision s'est fondée sur les incitations proposées par l'État de l'Indiana. La visite dans l'Indiana est la première étape de M. Trump, qui tiendra également un meeting ce soir à Cincinnati, dans l'Ohio. La visite dans l'Indiana est la première étape de M. Trump, qui tiendra également un meeting ce soir à Cincinnati, dans l'Ohio. Le futur président américain a déjà nommé son équipe économique, un banquier de Wall Street, Steven Mnuchin, comme secrétaire au Trésor et un autre milliardaire, Wilbur Ross, au commerce. Leur mission, appliquer sa promesse de reconsidérer les accords de libre-échange signés par les États-Unis et de préserver les emplois américains.
Lever la main pour la prévention du VIH, c'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée aujourd'hui dans le monde. 410 000 nouvelles infections ont été enregistrées en 2015 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Claire Morin-Gibourg.
En Afrique subsaharienne, ce sont les jeunes femmes qui sont les plus vulnérables dans les pays à forte prévalence du VIH, a indiqué le secrétaire général de l'ONU pour ce 1er décembre. Ban Ki-moon précise aussi que les groupes à risque, comme les homosexuels ou les consommateurs de drogues injectables, continuent d'être touchés par le virus. Pour Djibril Diallo, le directeur de l'ONU SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la prévention est absolument nécessaire. Le Nigeria, pays le plus peuplé de la région, totalise jusqu'à 60% des infections. En 2016, l'ONU SIDA veut accentuer les efforts pour atteindre ses objectifs. D'ici 2020, 90% des personnes qui vivent avec le VIH doivent connaître leur statut. 90% des personnes contaminées doivent avoir accès à un traitement. Et 90% des personnes sous traitement doivent avoir une charge virale qui ne leur permet plus de contaminer d'autres personnes.
Guerre en Syrie, l'armée continue sa progression à Alep-Est, dont elle contrôle 40%. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des centaines de soldats d'élite ont pris position pour aider à conquérir les quartiers assiégés les plus peuplés, rapporte l'agence France-Presse, qui rappelle que plus de 300 civils, dont 33 enfants, ont été tués à Alep-Est depuis le début de l'offensive lancée le 15 novembre par le régime. Près d'une cinquantaine sont morts à Alep-Ouest par des tirs attribués aux rebelles.
En Irak, quelques 1600 combattants kurdes, les Peshmerga, ont été tués depuis le lancement le 17 octobre de l'offensive des forces irakiennes contre le baston djihadiste de Mossoul. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Algort Ekmat, porte-parole du ministère en charge de cette force kurde dans la région autonome du Kurdistan iranien. Près de 10 000 Peshmerga ont été également blessés au cours des forces des féroces combats menés depuis 6 semaines pour déloger le groupe État islamique de la deuxième ville du pays.
Une petite précision, le porte-parole se trouve dans le Kurdistan irakien. À 6 mois de la présidentielle en France, la gauche a ouvert aujourd'hui le dépôt des candidatures pour sa primaire alors que le président socialiste François Hollande n'a toujours pas dévoilé ses intentions. Son ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, 54 ans, a été le premier à déposer sa candidature pour ce scrutin prévu les 22 et 29 janvier. Les autres postulants ont jusqu'au 15 décembre pour le faire. Quel que soit le candidat socialiste issu du primaire, ce dernier devra affronter, outre les représentants de la droite et de l'extrême droite, le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, et l'ex-ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Les sondages prédisent déjà un second tour entre le candidat de la droite, François Fillon, et la chef de l'extrême droite, Marine Le Pen.
Plus de 6 semaines après la mort du roi Bhumibol, la Thaïlande a un nouveau monarque. Le prince héritier Maha Vajiralongkorn a été officiellement proclamé roi aujourd'hui, d'après une déclaration lue sur toutes les chaînes de télévision du pays. Cela met fin à une période d'incertitude et ouvre une nouvelle ère pour le royaume. Le prince, âgé de 64 ans, avait surpris en demandant quelques heures après le décès de son père un délai avant de monter sur le trône. Jusqu'ici, il passait le plus clair de son temps en Allemagne. Il sera couronné l'an prochain après la crémation de Bhumibol et prendra alors le nom de roi Rama X.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco tout de suite avec Morgane Guériec.
Le Burkina Faso veut mener une insurrection contre la pauvreté. Le gouvernement annonce un plan de 23,5 milliards d'euros sur 5 ans. Le plan national de développement économique et social ambitionne de faire reculer la pauvreté de 40% aujourd'hui à moins de 35% d'ici 2020 et de créer 50 000 emplois par an. Autre axe de travail, le déficit énergétique, les transports, la formation et la démographie. Pétrole, l'Angola, l'Algérie et le Gabon réduiront leur production de 137 000 barils par jour, décision prise par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. En revanche, la Libye et le Nigeria sont exemptés de quotas du fait de la guerre civile pour le premier et des difficultés dans le delta du Niger pour le second. Vivo Energy prévoit de construire 100 à 130 stations-service par an sur le continent africain. La compagnie compte aujourd'hui plus de 1700 stations et 400 boutiques en Afrique. Le nouveau développement de Vivo sera axé autour du déploiement de boutiques et de restaurants dans les stations.
Ce thème annonce toujours la page sport. Nous avons en studio Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Alors, qui affrontera le Mali, Nicolas, en finale du tournoi de l'UEMOA au Togo?
Eh bien, ce sera les Lions de la Teranga, le Sénégal, qui a giflé, humilié 7-0 la Guinée-Bissau. Dans l'autre rencontre, sans enjeu évidemment, un match un peu ennuyeux finalement entre le Burkina Faso et le Bénin. La grande finale, ce sera samedi donc, entre le Mali et le Sénégal. Et puis, on rappelle en sport féminin qu'il y a la finale de la CAN 2016 qui aura lieu au Cameroun, entre les Camerounais et les Nigérianes.
Et ça, il faut le faire, mon ami haïtien Altidor, Toronto met fin au rêve de Montréal et de Drogba.
Et oui, bye bye Didier Drogba, puisque c'était son dernier match en MLS. Et Toronto qui a éliminé Montréal. Toronto qui devient la première équipe canadienne à se qualifier pour la finale de la MLS. Drogba n'aura donc pas pu offrir à Montréal le plus précieux des trophées. Il était arrivé au club en juillet 2015.
NBA, championnat de basket nord-américain, quelques résultats.
Les Spurs de San Antonio se sont relancés hier à Dallas, 94 à 87, tandis que Russell Westbrook continue ses prouesses statistiques pour le plus grand soulagement d'Oklahoma City. Tenez-vous bien, pour le quatrième match de suite, Westbrook s'est offert un triple-double lors de la victoire d'Oklahoma City en prolongation face à Washington, 126 à 115.
Et des commentateurs ont dit que ce n'était pas la meilleure soirée de Russell Westbrook malgré cette performance, Nicolas.
Oui, tout à fait. Puis on va donner, même si la musique est déjà partie, on va vous donner un petit résultat. Les Lakers, hein, qui continuent de surprendre, ils ont fait chuter les Chicago Bulls dans leur salle, 96 à 90, 10e victoire.
Merci Nicolas Pineau pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Anastasie Tudiesch et Gabi Dorsil, place maintenant au dossier du jour. On commence où ?
En Centrafrique. En Centrafrique, premier jour historique aujourd'hui, le pays a célébré le 58e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Un grand défilé a eu lieu sur l'avenue des Martyrs à Bangui. Reportage de notre correspondant Freeman Sipila.
Un exploit, le signe du relèvement. La célébration de cette année est historique car le pays n'avait pas été aussi en fête depuis le déclenchement des violences meurtrières en 2013. La mobilisation des Centrafricains pour le traditionnel défilé a surpris plus d'un. Au premier rang, les forces armées centrafricaines en pleine refondation. Le caporal-chef Christophe parle de la renaissance de l'armée nationale.
Quand on parle de la disparition de l'armée centrafricaine, je dis niet. L'armée centrafricaine existe. Dès le retour du président Archange Touadéra, je vois que tout évolue. On est sur la bonne voie.
Plusieurs milliers de personnes ont défilé sous un soleil de plomb sur l'avenue des Martyrs. Un moment de retrouvailles, mais aussi de réconciliation et de cohésion sociale.
Ça fait des années depuis la rentrée des Séléka. On n'a pas pu participer à des choses pareilles, mais vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment très contente. Je voulais défiler, redéfiler encore.
Que son trafiquant attendait voir une telle situation comme ça pour qu'ils tous y soient ensemble. Et effectivement, nous sommes tous ensemble aujourd'hui.
C'est une joie du cœur. Mon souhait, c'est de voir tous les Centrafricains dire que nous avons fini, nous avons tourné une page. Et que nous ne devons pas continuer à vivre dans la misère. Nous ne devons pas continuer à chanter que notre pays est riche, mais nous vivons pauvres. Non, nous devons vraiment nous unir pour développer ensemble notre pays.
Bon, moi, je travaille à la mairie. Ça me fait plaisir aujourd'hui, quoi. Ça me fait plaisir aujourd'hui de venir défiler. C'est bon.
À la veille de la célébration, le président centrafricain a appelé les groupes armés à cesser les violences. Pour Faustin Archange Touadéra, seul un désarmement négocié pourrait sortir le pays de l'ornière.
La solution à ce problème reste, à mon avis, le DDRR. Ce DDRR, je le veux négocier. Non pas parce que l'État est faible, mais parce que les circonstances actuelles l'exigent. Il n'existe pas meilleure manière que de se mettre ensemble et de dire comment procéder de façon concertée au désarmement.
Les forces de défense et de sécurité nationale et la MINUSCA, la force de l'ONU, ont mis en place un dispositif sécuritaire adéquat pour l'événement. Cette fête du 1er décembre est aussi célébrée dans nombreuses autres villes de la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. L'influence de Fidel Castro sur l'Afrique après la récente disparition de l'ancien président cubain. Héros pour certains, les dictateurs pour d'autres. Le père de la révolution cubaine est connu pour avoir soutenu des luttes de libération sur le continent africain, particulièrement en Afrique australe. Que pensez-vous de son impact sur l'Afrique ? Le rapprochement États-Unis-Cuba prendra-t-il d'autres tournures avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Même loin de Kinshasa, Ida Soye dénonce toujours les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Malgré son départ, suite au non-renouvellement de son visa, la chercheuse de Human Rights Watch se préoccupe toujours de la situation en RDC. L'Américaine a dénoncé cette semaine devant le Congrès à Washington la répression contre les voix dissidentes à RDC, alors que la date du 19 décembre approche et qu'aucun accord n'a été trouvé à Kinshasa. Nicolas Pineau a rencontré Mme Soye, on l'écoute.
En janvier 2015, déjà, il y avait des manifestations à travers le pays, au moins 40 personnes tuées par les forces de sécurité. Et juste dernièrement, en septembre de cette année, il y avait aussi des manifestations, surtout à Kinshasa, contre le fait que la CENI, la commission électorale, n'a pas convoqué les élections 3 mois avant la fin du mandat du président Kabila. Et encore une fois, les forces de sécurité ont répondu avec énormément de force. Nous avons documenté au moins 66 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité. Quelques-uns ont été brûlés par les gardes républicaines quand les gardes républicaines ont attaqué des sièges de l'opposition. Plusieurs journalistes et activistes des droits de l'homme ont été arrêtés aussi à ce moment-là. Nous avons aussi vu des attaques contre la presse, la média et aux journalistes au Congo.
Est-ce que vous avez le sentiment que Kinshasa veut faire taire les voix dissidentes?
Oui, donc ce que nous avons vu depuis les dernières 2 ans, c'est des efforts de la part du gouvernement de faire taire aux voix dissidentes au pays. Et c'est un développement assez triste et assez inquiétant. On a vu donc au Congo depuis longtemps, donc malgré les violations des droits humains qui existaient, malgré la répression à un certain niveau qui existait, l'opposition existe au Congo. Il y a une forte société civile, il y a des journalistes, il y a beaucoup de médias. Mais ce que nous voyons maintenant est que cet espace est en train de se réduire énormément et ça nous inquiète beaucoup. Nous avons tellement peur sur ce qui va arriver dans les semaines à venir.
Lorsque des journalistes ou des chercheurs des associations de défense des droits de l'homme, voire des pays, critiquent les autorités de Kinshasa, les autorités congolaises parlent d'ingérence.
Nous, de Human Rights Watch, on fait notre travail pour documenter les violations des droits humains, pour appeler qu'il y a la justice pour les auteurs et qu'il y a donc des mesures pour mettre fin à ces violations des droits humains. On travaille étroitement avec des activistes congolaises, les ONG des droits de l'homme congolaises, et nous essayons de faire ce que nous pouvons pour montrer au monde extérieur quand il y a ces violations des droits humains, donc d'être la voix pour les victimes, pour que leur souffrance est connue et pour encourager tous les acteurs qui peuvent faire quelque chose à agir. Donc nous ne sommes pas des gens qui viennent de l'extérieur comme ingérence, mais c'est pour soutenir la population congolaise et le respect des droits humains au Congo.
Ida Soyeux, chercheuse à Human Rights Watch.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Éliminer l'épidémie du sida, telle est l'ambition des Nations Unies. Et pour ce faire, plusieurs mécanismes de lutte ont été mis en place au Mali. Les centres de dépistage volontaire, le traitement et la prise en charge des malades. Le gouvernement malien et ses partenaires ont consenti des efforts, mais les malades pensent qu'ils peuvent plus parce qu'il y a souvent des ruptures de réactifs pour le dépistage, Kassim Traoré.
Après 15 ans de lutte contre le sida, les Nations Unies ont changé le fusil d'épaule. Cela conformément aux objectifs de développement durable. Ce qui veut dire que l'élimination du sida est désormais une priorité des Nations Unies à travers le monde. Madame Rosaline Doni, Sida Mali.
Le monde s'est donné certains signes. On a aujourd'hui 17 objectifs pour essayer qu'il faut atteindre d'ici 2030. Parmi les objectifs, dans l'objectif numéro 3, on aimerait vraiment arriver à éliminer le sida dans le monde. Pourquoi on aimerait? Parce qu'aujourd'hui, on a encore 36,9 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde et les nouvelles infections continuent d'augmenter. Depuis 2000, la réactivité au niveau international a permis certes d'éviter 30 millions de nouvelles infections et presque 8 millions de décès liés au sida.
Du manque de médicaments à la création des systèmes de dépistage volontaire jusqu'à la prise en charge des malades, il y a eu beaucoup de chemins parcourus. Docteur Moussa Kone du CESCOM de Kwale, dans la région de Sikasso.
Nous avons bien parlé de zéro contamination nouvelle, zéro personne non prise en charge, zéro discrimination. Et cette année, l'accent est mis sur le dépistage. Maintenant, et partout au Mali, pour accélérer l'élimination du sida. Il ne s'agit plus de lutter contre la contamination, il faut éliminer le sida entièrement sur l'ensemble du territoire national.
En cette journée mondiale de lutte contre le sida, les personnes vivant avec le sida au Mali n'ont pas caché leur colère face à la rupture des médicaments dans les centres de santé du pays, y compris Bamako. Thierman Oumoudjara, président de l'association des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Il y a toujours vraiment une difficulté qui est là. Ça, c'est par rapport vraiment au fait qu'il y a toujours les ruptures de réactifs pour le dépistage. Vraiment, on veut aller vers l'élimination totale de cette infection à VIH. Mais quand même, il y a quelques ruptures vraiment qui perdurent toujours. Mais je pense que les autorités, monsieur le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, aussi qui a promis de prendre toutes les dispositions pour que tous les Maliens puissent vraiment bénéficier vraiment du dépistage.
La rupture des médicaments sera bientôt un souvenir, selon le secrétaire exécutif national de lutte contre le sida au Mali. Malick Sel pense même qu'il faut décentraliser les sites de dépistage.
Vous verrez qu'en 2015, c'était 413 et puis après, ça a chuté en 386. Et le premier défi, c'est le défi du renforcement des systèmes de santé. En termes de quantité, il faut qu'on augmente les sites. Si nous avons 703 communes et que vous avez 400, 386, ça veut dire qu'il y a un différentiel qui est là, qui n'est pas couvert. Donc les populations de ces zones-là devraient se déplacer pour aller se faire soigner ailleurs. Dans ces conditions-là, si on n'a pas une aide, et si cette aide n'est pas bien orientée, est-ce qu'on peut atteindre les objectifs qu'on nous demande d'atteindre?
Ce jeudi 1er décembre 2016 est la journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs activités sont au programme au Mali, avec des séances de dépistage volontaire, des messages de sensibilisation contre le VIH-Sida. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le sculpteur sénégalais de renom Ousmane Sow est mort aujourd'hui à Dakar à l'âge de 81 ans. Il était connu pour ses sculptures géantes représentant des ethnies africaines. Il a été admis à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de Paris en 2012 et son exposition sur les Indiens d'Amérique avait attiré plus de 3 millions de visiteurs en 1999 à Paris. Abdourahmane Dia a joint à Dakar Alassane Cissé, journaliste culturel qui a réalisé plusieurs interviews avec Ousmane Sow.
Il a marqué son époque, il a marqué de son empreinte des réalisations de haute facture. C'est un sculpteur d'un rang mondial et il a façonné et immortalisé des ethnies africaines avec ses sculptures monumentales. Des ethnies africaines telles que les Maasai, les Nuba, les Peuls. Ces derniers temps, ses réalisations ont porté sur des figures historiques qui ont marqué sa vie. Tel que son père, tel que Mahatma Gandhi, tel que Nelson Mandela, tel que l'écrivain Victor Hugo. Et en 2012 également, l'Académie des Beaux-Arts de Paris l'a accueilli donc comme membre associé.
Il était connu pour ses sculptures gigantesques consacrées surtout aux ethnies africaines. Tu penses qu'il a eu la reconnaissance qu'il méritait en Afrique?
Mais il a eu la reconnaissance, quoi, qu'on dise. Au Sénégal, les autorités lui ont rendu hommage, lui ont donné beaucoup de distinctions. Il était impliqué, et surtout avec l'avènement du président Macky Sall, dans les politiques culturelles publiques. Je pense qu'on lui a rendu hommage également au cours de grands rendez-vous culturels africains. Ousmane Sow aussi a façonné des sculpteurs de la trempe de Ndarilo également.
Justement, quel est un peu l'avenir de la sculpture au Sénégal et un peu en Afrique après sa mort?
L'avenir de la sculpture au Sénégal, on vient d'apprendre que le jeune Balanda, sculpteur, a été sélectionné par le comité international de sélection pour les 8e Jeux de la francophonie qui auront lieu en Côte d'Ivoire. Et au village des arts, il y a des sculpteurs de la trempe de Djibril André Diop. Et actuellement, Bassirou Sarr, sculpteur, va ouvrir un village des arts à Ngaparou. Donc la sculpture, c'est une discipline assez difficile par rapport à la peinture, par rapport aux autres arts classiques. Mais la sculpture a de beaux jours au Sénégal et aussi en Afrique, avec les sculpteurs sud-africains, ghanaïens, tels que Kofi, et qui sont en train de faire des merveilles et qui exposent aussi bien à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, de la Documenta de Kassel en Allemagne et d'autres grands rendez-vous des arts plastiques à travers le monde.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'était GLS Georges-Léonard Sagno, à la console Cédric Franklin, présentation Chérubin, Gabi Dorcy, j'ai failli oublier votre nom très cher, et Anastasie oui. Tudiech.
Et la faute est à Cédric Franklin, il a eu toute l'attention. Alors, merci Monsieur Franklin. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Merci à tous d'avoir choisi VOA Afrique. Rendez-vous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'infos et des vidéos 24 heures sur 24. On reste ensemble.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique.